Vous écoutez, on lit pour vous.
Les mécanismes derrière le gaslighting. Un texte de Florence Dencause, paru le 10 octobre 2025 dans la presse. De nombreuses victimes de détournement cognitif, gaslighting, se demandent comment elles ont pu subir cette forme de manipulation. Des chercheurs de l'Université McGill et de l'Université de Toronto révèlent un nouvel aspect, le phénomène serait un processus d'apprentissage. Et tout le monde peut y être vulnérable. Qui n'a pas entendu parler de détournement cognitif ou « gaslighting » en anglais ces derniers temps? Le populaire terme est même revenu au premier plan cet automne dans l'émission de télé-réalité « Occupation double » où des participantes ont parlé de « décervelage », autre synonyme du mot. Cette manipulation psychologique consiste à faire douter une personne de sa perception de la réalité, que ce soit des sentiments ou même des souvenirs. L'expression provient de la pièce de théâtre intitulée « Gaslight » dans laquelle un homme manipule sa femme jusqu'à lui faire croire qu'elle est folle. Mais comment les personnes manipulatrices arrivent-elles à convaincre les victimes qu'elles perdent la raison? C'est la question que se sont posées le doctorant Willis Klein, affilié au McGill Laboratory of Affiliation and Prosociality, ainsi que la professeure Jennifer Bartz de l'Université McGill et la professeure Suzanne Wood de l'Université de Toronto. Un aspect clé du détournement cognitif est que la cible a énormément confiance en son agresseur, que ce soit dans un contexte de relation amoureuse ou parce qu'il détient une certaine autorité, avance Willis Klein. Les chercheurs se sont concentrés plus spécifiquement sur les relations amoureuses. Apprendre à avoir tort. Les agresseurs utilisent d'abord la surprise. Ils font quelque chose d'inattendu, que ce soit négatif ou même positif, qui surprend la victime, indique Willis Klein. La surprise doit être ensuite déchiffrée. L'agresseur offre alors une explication. L'autre personne est surprise parce que sa vision des choses est erronée. La cible a donc un sentiment d'incompétence épistémique, déclare le chercheur. La personne manipulatrice pourrait, par exemple, tenter d'empêcher son partenaire de sortir avec ses amis comme prévu, en lui rappelant qu'il est trop irrationnel pour gérer adéquatement le budget. Ici, la cible est d'abord stupéfaite, mais finit par croire qu'elle dépense réellement trop lors de ses sorties et qu'elle ferait mieux de rester chez elle. Chaque fois que vous acceptez leur explication, dit Willis Klein, ça vous rend plus dépendant d'eux, car vous vous dites que vous êtes aveugle à ce qui se passe autour de vous. Les chercheurs se sont appuyés sur un concept d'apprentissage de réduction des erreurs de prédiction, Prediction Error Minimization en anglais, pour exprimer le phénomène du détournement cognitif. Le cerveau doit traiter les milliers de signaux, tout le temps, affirme le doctorant. Pour se simplifier la tâche, il se crée une illusion de l'environnement qui prédira comment seront les choses, illustre-t-il. Le gaslighter vient ainsi déstabiliser la victime en agissant différemment et oriente son apprentissage pour parvenir à ses fins. Des relations de confiance. Mais pourquoi la cible ne remet-elle pas simplement en question les agissements de son partenaire? Parfois, celle-ci obtient du soutien, que ce soit émotionnel ou même financier, de cette relation, met en lumière Willis Klein. Tu peux donc sacrifier cette relation ou tu peux continuer à faire confiance au partenaire, même si ça signifie de douter de soi-même, dit-il. La dynamique du détournement cognitif repose également sur le haut niveau de confiance que nous accordons à nos proches. Nous avons beaucoup confiance en leur vision du monde, alors s'ils disent que le monde est différent de la manière dont on le perçoit, on a plus de chances de les croire, ajoute-t-il. L'isolement de la victime, un facteur assez commun dans les situations de gaslighting, peut venir aggraver les cas. Passer du temps avec d'autres personnes qui ne sont pas des manipulateurs est essentiel au rétablissement, souligne Willis Klein. Cela aidera à restituer le sens de notre réalité. La recherche suggère que n'importe qui pourrait être victime d'un gaslighter du moment qu'on accorde notre confiance à la mauvaise personne. Si tu en es victime, il n'y a rien qui cloche chez toi, rassure le doctorant, qui met en lumière le fait que le détournement cognitif mérite davantage de recherche pour percer ses mystères et mieux aider ceux qui en sont victimes. C'était « Les mécanismes derrière le gaslighting », un texte de Florence Dencause, paru le 10 octobre 2025 dans la presse.
Une démocratie branchée sur nos valeurs ou sur des serveurs californiens? Un texte d'Éric Tétrault, publié le 25 novembre 2025 dans Le Devoir. Les divers ordres gouvernementaux doivent montrer l'exemple. Investir ici, parler ici, rayonner ici. Nos racines longueuilloises nous ont légué un réflexe rare et précieux, celui d'incarner et de défendre notre culture locale. Au FM 103,3, on fait jouer 100% de musique francophone aux heures de grande écoute, par choix et non par obligation. Depuis plus de 20 ans, la disque reconnaît les retombées concrètes de nos efforts pour la promotion des artistes québécois. Malgré ce fait d'armes unique au Québec et même au-delà, les dirigeants de nos divers ordres politiques continuent de favoriser les GAFAM pour y diffuser leur actualité locale et y placer leurs investissements publicitaires. Pour quelles raisons? Les GAFAM de ce monde couvrent-ils les activités des conseils municipaux et les événements sociaux, communautaires et culturels? Réalisent-ils des débats sur nos enjeux locaux? Diffusent-ils en primeur nos artistes francophones pour les faire découvrir et apprécier ou même simplement pour leur permettre d'être entendus dans le bruit du Grand Montréal? Diriger les citoyens vers les GAFAM pour la diffusion de leur actualité locale, ce n'est pas du développement durable. C'est appauvrir nos médias, nos milieux, nos artistes, déliter notre identité et, ultimement, notre démocratie locale. Pourquoi trop de nos élus entraînent-ils les citoyens ailleurs, sur les réseaux nationaux et les réseaux sociaux, au lieu de prioriser leurs médias locaux, dont leur radio locale? Ce comportement déracine nos valeurs sociales et culturelles localement, dirige quotidiennement l'attention du citoyen sur la dernière inspiration d'une personnalité en quête d'impact de visibilité personnelle maximale sur les réseaux sociaux, souvent avec des informations des plus banales. Et après, on se plaint que les citoyens s'intéressent si peu aux élections municipales et que les médias nationaux ne couvrent à peu près pas ou si mal ces événements. Au lieu de s'entêter à offrir des exclusivités aux réseaux nationaux afin de faire partie des trois nouvelles de la journée, pourquoi ne pas formater un message dirigé vers les citoyens afin qu'ils se sentent vraiment interpellés par la nouvelle d'une actualité locale qui les concerne? Cela pourrait raviver l'intérêt du citoyen vis-à-vis des vrais enjeux d'une démocratie qui le concerne. Les représentants des ordres gouvernementaux de proximité sont, par leurs actions, des leaders d'opinion pour l'ensemble des institutions locales, les commerçants, les organismes, les individus. Ils doivent donner l'exemple, promouvoir en priorité l'achat local. Ils doivent être une source d'inspiration et porter bien haut le drapeau de l'identité locale. Notre radio locale rappelle à chaque heure son appartenance territoriale, son identité propre, ses couleurs culturelles, divertit, informe et commente des actualités. Quel membre des GAFAM peut en dire et en faire autant? Avec un certain recul, on peut dire que nous ne vivons pas nécessairement une crise médiatique, mais un véritable virage numérique des médias, avec de nouvelles technologies devenues accessibles à tous. Ces changements amènent les radios locales à devenir des producteurs de contenus locaux, multiplateformes, avec un contenu audio en streaming, de l'écrit avec les actualités quotidiennes sur leur site Internet et en format vidéo, avec des contenus en balado pour permettre le rattrapage. Au FM 103,3, nous avons relevé le défi et nous sommes en mesure d'aller de l'avant, le pied dans le tapis, tout en restant flexibles et en regardant loin devant. Oui, notre communauté est en mutation. Les citoyens doivent faire rayonner leurs valeurs, leurs traits culturels et leurs coutumes afin d'inciter l'ensemble de nos diverses communautés à suivre ces mêmes repères sociaux pour une vie et une démocratie saine. La radio locale est présente, accessible, émotive, fidèle et en relation avec les valeurs des citoyens à qui elle est redevable. Nous posons alors la vraie question. Souhaitons-nous une démocratie branchée sur nos valeurs locales ou bien sur des serveurs californiens? Nos divers ordres gouvernementaux doivent montrer l'exemple. Investir ici, parler ici, rayonner ici. Parce qu'une société forte se construit avec ses propres voix. C'était une démocratie branchée sur nos valeurs ou sur des serveurs californiens. Un texte d'Éric Tétrault, publié le 25 novembre 2025 dans Le Devoir.
Pourquoi le Canada n'a-t-il pas d'or dans ses réserves? Un texte d'André Dubuc, paru le 4 octobre 2025 dans la presse. Un lecteur de Kamouraska, Michel Champagne, demande « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, alors que plusieurs banques centrales du monde, dont la Chine, accumulent des réserves d'or, le Canada, qui est pourtant un producteur d'or, n'en a pas? Le prix de l'or a plus que doublé depuis 2 ans, passant de 1 800 $ US l'once en septembre 2023 à plus de 3 600 $ US ces jours-ci. Durant cette période, malgré un prix de l'or en hausse, les banques centrales ont continué d'acquérir des lingots à bon rythme. Pourquoi donc? Avant de répondre directement à la question, à quoi servent au juste les réserves internationales d'un pays comme le Canada? Les réserves servent, selon le Fonds monétaire international, à défendre une devise contre des sorties de capitaux trop prononcées, pour assurer aux banques des liquidités d'urgence en monnaie étrangère et pour résister à des situations de marché chaotiques. Ces dernières années, en particulier depuis les sanctions américaines à l'endroit de la Russie ayant suivi l'invasion de l'Ukraine, des pays ont pris bonne note qu'ils risquent à tout moment de perdre l'accès à leurs réserves libellées en dollars américains. Et leurs banques centrales ont voulu diversifier le contenu de leurs réserves internationales avec un actif neutre. Autre facteur qui entre en ligne de compte, des banques centrales craignent l'érosion du pouvoir d'achat de leurs réserves en dollars américains, conséquence de l'état désastreux des finances publiques aux États-Unis, avec une dette fédérale de plus de 36 000 milliards US. En 2022, 2023 et 2024, les banques centrales ont augmenté leurs réserves d'or de 1 000 tonnes par année. Les achats nets s'élèvent à 400 tonnes après 6 mois en 2025, selon le Conseil mondial de l'or. Les banques de Pologne, du Kazakhstan et de la Turquie mènent la danse cette année. On est rendu au point où les banques centrales détiennent globalement plus d'or dans leurs réserves que de bons du Trésor américain, une première en 30 ans. La plupart des bons du Trésor ne représentent plus que 23 % des réserves, en baisse par rapport au pic de plus de 30 % dans les années 2010 et inférieur à la part actuelle de l'or, qui est de 27 %. Selon un sondage mené par le Conseil mondial de l'or auprès des banquiers centraux, la majorité des personnes interrogées, 73 %, prévoit une baisse modérée ou significative des avoirs en dollars américains dans les réserves mondiales dans les 5 prochaines années. Et en conséquence, la part d'autres actifs comme l'or augmentera au cours de la même période. Le Canada fait en effet bande à part en étant la seule banque centrale du G7 à ne détenir aucune once d'or dans ses réserves. Ce ne fut pas toujours le cas. Le Canada détenait environ 1023 tonnes d'or en 1965. En 1985, les réserves avaient fondu de moitié. Tout au long des années 1990 et jusqu'en 2002, les ventes se sont poursuivies à bon rythme. Les dernières onces ont été vendues en 2016 sous le gouvernement de Justin Trudeau. C'est spécial parce que le Canada est le 4e producteur d'or en importance dans le monde, avec des livraisons de 200 tonnes en 2024. Dans une entrevue accordée à Michel McCurry sur le site Kitco News en 2022, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, répétait que le contenu de réserve de la Banque du Canada relevait d'une décision du ministre des Finances et du gouvernement canadien, et non pas de la banque elle-même. Selon M. Poloz, ceux qui ont pris la décision de vendre les lingots dans le passé préféraient des actifs plus liquides que l'or, et qui, contrairement au métal précieux, engendrent des revenus sans avoir de frais d'entreposage, comme des bons du Trésor et des obligations américaines. Selon une étude des économistes de la Banque nationale BN de 2020, dont a fait état ma collègue Hélène Barry, le contenu des réserves du Canada prend acte du fait que la Réserve fédérale américaine a agi comme stabilisateur des marchés financiers mondiaux en période de crise dans le passé, en accordant des facilités de swap de devises à une série de banques centrales étrangères. Mais le fera-t-elle demain, au moment où les États-Unis se replient sur eux-mêmes et tournent le dos aux institutions multilatérales? Étant donné ces circonstances, la BN s'interrogeait sur l'insuffisance des réserves canadiennes, 80 milliards US à l'époque, ou au moins 3 % du produit intérieur brut canadien, et sur l'absence d'or. Avec le retour de Donald Trump à la présidence, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a constaté publiquement la fin de l'intégration tous azimuts entre le Canada et les États-Unis. L'état actuel des réserves internationales du pays est-il adapté à cette nouvelle réalité? C'était « Pourquoi le Canada n'a-t-il pas d'or dans ses réserves? » Un texte d'André Dubuc, paru le 4 octobre 2025 dans la presse.
Les tout-petits ne votent pas, mais leur bon développement est primordial. un texte de Zacharie Goudreau, paru le 12 novembre 2025 dans Le Devoir. Des experts se sont penchés sur le chemin parcouru, mais surtout sur les défis importants qui demeurent dans l'amélioration du développement des enfants en bas âge, dont la voix trouve encore à ce jour peu d'écho dans l'arène politique. Les tout-petits, ils ne votent pas, donc ça devient moins attrayant de leur donner une voix. Pour le milieu politique, constate avec regret la professeure à l'UQAM et directrice scientifique de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, Lise Lemay. Ainsi, même si au Québec, on a vraiment fait des bons coups dans la dernière décennie afin d'améliorer le développement des tout-petits, plusieurs ombres demeurent au tableau de leurs conditions de vie. En fait, aujourd'hui, les tout-petits arrivent à la maternelle avec plus de vulnérabilité qu'avant dans au moins un domaine de développement, constate la directrice du collectif Petite Enfance, Élise Bonneville, en citant de grandes enquêtes menées dans les dernières années par l'Institut de la statistique du Québec. Une situation qui n'est pas étrangère à la crise du logement et à la hausse du prix des aliments qui ont frappé le Québec dans les dernières années. Dans ce contexte, en 2022, environ le quart des parents d'enfants de 0 à 5 ans considéraient qu'ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins de base, indique au Devoir la directrice de l'Observatoire des tout-petits, Julie Caillot. On parle du logement, de l'alimentation et de se vêtir, ajoute celle qui note que le quart, c'est quand même une grande proportion. Elle fait d'ailleurs écho à la hausse de l'utilisation des banques alimentaires et d'autres services communautaires par de nombreuses familles québécoises. Un moment privilégié. Or, les 5 premières années de la vie sont cruciales dans le développement des enfants. C'est un moment privilégié pour placer la personne sur une bonne traque, illustre Madame Caillot, qui relève ainsi l'importance que les jeunes enfants mangent suffisamment et aient accès à un logement qui ne soit pas insalubre. Parallèlement, 89 % des 2230 adultes québécois ayant pris part à un sondage de la firme Léger, mené pour le compte du collectif Petite Enfance à l'automne 2025, ont indiqué que, selon eux, Québec devrait investir davantage dans l'accès à des logements abordables pour des familles. Le coup de sonde, dont Le Devoir a obtenu les résultats détaillés, fait aussi état de 85 % de répondants estimant que Québec devrait compter parmi les priorités une lutte accrue contre l'insécurité alimentaire. Ce sont aussi 81 % des personnes sondées qui réclament un meilleur soutien financier pour les familles en difficulté. Car, même si les conditions salariales des Québécois en moyenne s'améliorent, plusieurs enfants continuent de devoir affronter des difficultés dans leur développement, note la professeure du département des sciences économiques de l'UQAM, Catherine Heck. C'est une question de choix de société. Est-ce qu'on veut aider ces enfants-là ou pas? Je pense qu'on a tout intérêt à bien les accompagner, ajoute-t-elle. Un enjeu électoral? C'est donc dans l'espoir que le développement des tout-petits devienne un enjeu électoral dans le cadre de la prochaine campagne électorale provinciale, l'automne 2026, que le collectif Petite Enfance a soumis aux différents partis représentés à l'Assemblée nationale 21 demandes que l'organisation leur demande d'inclure dans leur plateforme électorale. Le collectif demande notamment aux partis de s'engager à augmenter les prestations liées au régime québécois d'assurance parentale et à élargir la gratuité des services de garde éducatif à l'enfance à toutes les familles en situation de faible revenu, tout en convertissant progressivement l'ensemble des garderies privées en centres de la petite enfance qui offrent en général un service de meilleure qualité. C'est une chose de subventionner des places, mais on ne doit pas perdre de vue la qualité de ces places-là, relève Mme Lemay, qui plaide, elle aussi, pour un accès élargi, en particulier pour les enfants provenant de milieux défavorisés, à des services de garde éducatif à but non lucratif. Car, actuellement, au Québec, les enfants les plus vulnérables sont ceux qui ont le moins accès à des services de garde publique, souligne-t-elle. C'était « Les tout-petits ne votent pas, mais leur bon développement est primordial », un texte de Zacharie Goudreau, paru le 12 novembre 2025 dans Le Devoir.
Y a-t-il trop d'arbres à Montréal? Un texte de Suzanne Larreau, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse. Suzanne Larreau est ex-PDG de Vélo-Québec. En revenant de Grèce dernièrement, j'ai été émerveillée par la verdure de Montréal. D'habitude, en revenant d'Europe, je déprime un peu en observant notre aménagement urbain et notre patrimoine bâti. Mais là, le vert me happe et je souris. Je jouis de cette béatitude de vivre dans une ville où on a pris le temps de planter des arbres, des arbustes et des plantes au fil des décennies. La ville verdit le moindre recoin de rue, de parc. Souvenez-vous du parc Jarry il y a 20 ans. Les citoyens, les commerces et les institutions emboîtent le pas. Tout le monde qui a un bout à verdir fait sa job. Et ça donne maintenant une ville où la nature fait corps avec l'urbanité. Je me suis alors posé la question. Avons-nous trop d'arbres? Est-ce qu'on impose un moratoire arboricole? Question un peu bête lorsqu'on pense aux nombreux bienfaits que procure la nature en ville pour les citoyens et les citoyennes. J'imagine mal un ou une prétendant à la mairie de la ville ou d'un arrondissement exprimer sa vision d'un Montréal saturé d'arbres au point où on cesserait d'en planter. Permettez-moi maintenant de passer des arbres aux voies cyclables qui sont le poumon de la mobilité urbaine. On crée des corridors de locomotion, souvent verdis, pour accroître les déplacements à vélo et même apaiser des rues en diminuant parfois le nombre de voies de circulation motorisées. Paris nous a démontré de façon magistrale comment réduire les inconvénients d'une ville paralysée par la congestion en ajoutant une infrastructure destinée au vélo. Et son développement ne ralentit pas. Les villes qui ont choisi de s'attaquer à la qualité de vie en ville et qui prennent leurs responsabilités pour diminuer les GES et accroître la résilience écologique vont toutes dans la même direction. Plus de place au mode de déplacement actif et collectif et moins à la voiture individuelle. À Montréal, on développe notre réseau cyclable qui en a bien besoin puisqu'il constitue moins de 2% de la voirie. Toujours plus de voitures. Devant un accroissement constant du nombre de voitures en ville, au-delà de la croissance de la population, on a atteint une réalité mathématique inéluctable, la saturation de nos rues. On aime bien penser que ce sont les chantiers qui causent la congestion. Mais ce n'est qu'une désagréable distraction face aux chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il s'ajoute chaque année des milliers d'autos dans nos rues, rendant les déplacements en voiture de plus en plus difficiles. La question des pistes cyclables hante les élections montréalaises depuis 40 ans. J'entends les mêmes objections aux batailles menées au fil des décennies pour obtenir le droit de circuler à vélo sans risquer sa vie. Ce même clivage remonte à la surface régulièrement alors que je pensais cette obstruction chose du passé. L'emprise publique qu'est la rue a été laissée au fil des décennies à l'auto, sans trop de résistance. Le rêve de circuler en voiture ayant percolé au-delà de notre réel besoin de déplacement. Montréal n'aura jamais assez d'arbres et de voies cyclables pour accueillir tous ceux et celles qui se déplacent et se déplaceront à vélo. Selon l'état du vélo à Montréal en 2020, publié par Vélo-Québec, 57 % des adultes et 83 % des enfants montréalais font du vélo. Le développement du réseau cyclable ne devrait même pas apparaître comme un enjeu politique. Aménager la ville pour ses citoyens doit se poursuivre chaque année, peu importe l'administration au pouvoir. L'équipe d'employés qui planifie et réalise les voies cyclables à Montréal est hautement compétente. J'imagine à peine une notice politique disant qu'on va vous affecter à une autre tâche, car on met le développement du réseau cyclable sur pause. Imaginez dire à l'équipe horticole « On ne plante plus d'arbres dans les prochaines années. On va vous occuper ailleurs. » Quelle perte d'expertise ce serait! J'aimerais entendre nos aspirants maires et mairesses nous parler de la mobilité du 21e siècle, qui doit passer par plus de transports collectifs et plus de transports actifs. Plus de bus, plus de voies réservées, plus de voies cyclables et plus de rues piétonnes. J'aimerais qu'on me dise quand on va me permettre de me déplacer au centre-ville de Montréal sans que je sois coincé entre une voiture en mouvement et une autre stationnée, car aucun lien cyclable n'existe. C'est toujours un triste retour aux années 1980 que m'offre une bonne partie du centre-ville de Montréal en matière de mobilité à vélo. Aux prochaines élections, je voterai bus, métro, vélo et verdissement. J'aime Montréal, malgré ses sources d'irritation et ses imperfections. Et je l'aime de plus en plus pour son réseau cyclable qui m'offre toujours plus de possibilités de me déplacer en sécurité. C'était « Y a-t-il trop d'arbres à Montréal? » Un texte de Suzanne Larreau, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse.